France Culture.
À voix nue, Caroline Brouet,
Valérie Masson-Delmotte, climatologue.
Premier épisode, la tête dans les nuages. Bonjour Valérie Masson-Delmotte.
Bonjour.
Merci de nous recevoir dans ces locaux pour l'instant à Jussieu, à Paris, dans une des tours de Jussieu. Et puis nous serons pour les deux derniers épisodes à Saclay, au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement. Vous êtes l'une de nos plus grandes scientifiques, une figure incontournable du monde de la recherche. Votre domaine à vous, c'est le climat. Vous cherchez à connaître les climats passés pour comprendre nos climats présents et futurs. En 2018, la revue Nature vous a placé dans son top 10 des scientifiques de l'année. En 2022, vous avez été classé parmi les 100 personnalités les plus influentes par le magazine américain Time. Et de fait, l'influence, la résonance de vos travaux, c'est une dimension très importante de votre travail. Vous êtes l'autrice de nombreux ouvrages qui visent à sensibiliser nos concitoyens à la science en général et à la climatologie en particulier. Vous êtes engagée dans de nombreux organismes, vous intervenez régulièrement dans l'espace public, et pas seulement médiatique, pour alerter sur le réchauffement climatique, si bien que votre nom, je crois, est sans doute familier aux oreilles de celles et ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Dans vos fonctions, on retient souvent que vous avez été coprésidente du groupe de travail sur les sciences du climat au GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, de 2015 à 2023. Aujourd'hui, vous êtes directrice de recherche au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement au Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, le CEA, mais vous êtes aussi membre du Haut Conseil pour le climat et depuis juin 2025 de l'Académie des sciences. Un mot peut-être d'abord, juste pour commencer, sur ces deux endroits que vous avez choisis pour nous recevoir, Jussieu d'un côté, puis Saclay de l'autre.
Oui, ici on est dans les locaux de l'Institut Pierre-Simon Laplace, qui est une fédération de laboratoires en sciences du climat en région parisienne. Donc c'est un réseau de laboratoires. Et dans ce cadre, moi je suis responsable d'un centre climat-société qui a été mis en place il y a peu de temps. Et vraiment avec cette idée d'interroger nos sciences du climat, les faire avancer pour répondre à des besoins de la société et puis de démocratiser nos sciences, en fait, hein, en renforçant les interactions entre sciences et société. C'est un sujet qui nous tient à cœur à tous.
Qui vous tient à cœur à tel point qu'on en parlera pendant tout un épisode, hein, le dernier, évidemment, Valérie Masson-Delmotte. Le premier épisode, il est surtout fait pour comprendre ce qui a fait que vous êtes devenue ce que vous êtes devenue. Alors, on peut commencer par le début. Vous êtes née à Nancy en 1971, dans une famille d'enseignants, mais pas scientifiques.
Oui, mes parents étaient tous les deux profs d'anglais en lycée, technique et puis lycée classique. Et j'ai vraiment des bons souvenirs d'enfance dans une famille aimante et ancrée en Lorraine, hein, l'histoire familiale des deux côtés en Lorraine, un ancrage dans le territoire. Et puis, je pense pas mal de choses dont j'ai pris la mesure après en étant partie. Plein de choses liées à mon histoire familiale sur le respect des autres, le respect du travail, les valeurs familiales, qui ont façonné l'histoire de ma famille.
Et dans le reste de la famille, il n'y avait pas d'autres scientifiques ?
Alors, dans le reste de ma famille, il y avait des enseignants en maths, il y avait des cousines qui ont fait des études d'ingénieurs, par exemple, des oncles qui étaient ingénieurs, également, qui eux vivaient plutôt en région parisienne. Mais pas dans le cadre familial direct, une ouverture aux sciences. C'était plutôt avec... moi, j'ai vraiment des souvenirs d'un ami de mes parents, donc un ami de long terme, qui lui-même était enseignant de sciences de la vie et de la terre, et puis à l'occasion de vacances, qui en fait partageait finalement son envie de comprendre. Je pense que ça a suscité pour moi vraiment beaucoup de choses. Un voisin qui était archéologue amateur, qui allait chercher des fossiles. Et ce côté assez formidable de se dire, on est sur une... quelque chose qui a l'air simplement d'être du gazon. Et puis si on creuse, on a les vestiges des sociétés passées, néolithiques en fait, en Lorraine. Alors ça, c'était pour moi quelque chose d'assez fascinant. Donc les fossiles au hasard des promenades et puis des fouilles d'archéologues amateurs, ça je m'en souviens. Et j'ai aussi un souvenir marquant d'un projet en CM2 à l'école primaire où l'institutrice en fait nous avait fait travailler sur les volcans. Et ce qui était intéressant, c'est que je me souviens que ma mère me disait à l'époque... ben, c'est pas dans les programmes. Pourquoi vous faites ça? Et finalement, c'est le seul souvenir quasiment que j'ai de l'école primaire, d'avoir fait un travail sur les volcans en allant chercher dans des livres des connaissances en plus. Puis on avait fait un petit fascicule qu'on avait imprimé, vous savez, avec les encres bleutées de l'époque. Et ça, vraiment, je revois encore l'image des volcans sur laquelle on avait travaillé.
On entend déjà, hein, dans ce que vous dites, Valérie Masson-Delmotte, que vous êtes quand même assez sensibilisée à l'environnement naturel. Alors la Lorraine, les Vosges, ça compte beaucoup. D'ailleurs, on enregistre ces avoinues à l'occasion de la 36e édition du Festival international de géographie de Saint-Dié-des-Vosges. Vous en étiez la présidente, c'était l'occasion de revenir sur vos terres d'enfance. Elles ont compté, ces terres, pour vous?
Oui, et souvent avec mes parents, donc on allait en vacances en camping. Eux avaient une caravane, c'était sous la tente pour mon frère et moi. Et en hiver, on allait faire du caravanage dans les Vosges. Et puis on faisait du ski de fond. Ça permettait de sortir de la ville de Nancy, hein, d'aller s'aérer. On habitait en appartement quand j'étais adolescente. Et du coup, j'ai ce souvenir de la beauté de la neige soufflée sur les ballons en fait du relief lorrain. J'ai le souvenir aussi de la forêt, une forme d'émerveillement pour la forêt. Et puis l'été, souvent, on allait en vacances en Bretagne, dans les Côtes d'Armor, où je continue à aller. Dans les Côtes d'Armor, c'est vraiment la découverte des paysages en interface mer et terre. Donc le littoral à marée haute, le littoral à marée basse, le phénomène des marées. Mais aussi, je me souviens dans mon enfance d'avoir joué avec les vestiges des marées noires dans le sable. Puis on a vu aussi les marées vertes se produire. Et je pense que la fréquentation d'un lieu dans la durée, ça permet aussi de prendre la mesure finalement des changements qui se produisent. Et plus récemment, de l'érosion aussi de certaines plages sableuses. Et dans les Vosges, ce qui est frappant, c'est que ce que je faisais couramment quand j'étais enfant, le ski de fond, ça devient maintenant très épisodique avec le réchauffement. Et puis, il y a une forte dégradation des dépérissements de forêt liés aux épisodes plus chauds, plus secs. C'est quelque chose qui me touche.
Ça veut dire qu'il y a comme une forme de nostalgie quand vous pensez à cette forêt, cette neige de votre enfance, ou ça veut dire qu'en fait, quand vous fermez les yeux et que vous vous replongez dans ce passé, dans cette enfance à vous, vous voyez déjà la petite fille curieuse de tout ce qui l'entourait et de la façon dont vous pouviez observer les choses, et que rétrospectivement vous dites, oui, il y avait déjà quelque chose en germe.
Je pense que j'ai eu la chance d'avoir une enfance où j'avais du temps pour aller dehors, créer en fait finalement une forme de familiarité avec un environnement naturel. Pourtant, en vivant à mon adolescence en centre-ville, je pense que j'ai aussi la chance d'avoir du temps pour rêver en regardant les nuages, hein, ça m'a aussi pas mal occupée. Simplement, du temps à rien faire, regarder en l'air la forme des nuages, m'interroger d'où ils viennent, pourquoi ils prennent ces formes. J'ai aussi un souvenir de vacances en camping dans le sud de la France, près de Bormes-les-Mimosas, donc un environnement assez différent de la Lorraine au début de printemps, ou même de la Bretagne, donc le paysage méditerranéen. Et je me souviens d'une odeur incroyable, un matin en sortant de ma tente, où j'avais été vraiment au nez, chercher la source de ce parfum, et c'était des fraisias qui avaient éclos dans une haie. Et je me souviens encore, et ça reste encore mes fleurs préférées, par ce souvenir d'odeur vraiment, pour moi, magnifique.
Une petite fille contemplative quand même un peu.
C'est ça, oui. Et puis j'aimais bien être sportive, bouger, marcher, faire du ski de fond à l'époque. Et j'ai aussi souvenir de détester qu'on me mette des robes, de cette image que les petites filles, elles doivent être jolies et pas bouger. Donc à l'époque, je me souviens qu'on m'avait appelée garçon manqué, par exemple.
Oui, c'est ce qu'on disait
à l'école primaire.
Dans cette époque quand on était
C'est ça. Mais j'ai eu la chance d'avoir une forme de liberté par mes parents, ma famille.
Et de vous dire petite fille réussie plutôt.
Exactement.
C'est ça. Alors la petite fille réussie que vous étiez, Valérie Masson-Delmotte, aimait aussi beaucoup lire. Il paraît même que vous lisiez en marchant.
Quand j'étais à l'école maternelle, j'ai eu toutes les maladies à un moment donné des enfants. Et ma grand-mère m'avait gardée, parce que je pense que je pouvais pas aller à l'école à ce moment-là ou quelque chose comme ça. Et elle était enseignante en école primaire, en retraite. C'est comme ça que j'ai appris à lire. Donc j'ai appris à lire tôt. Je me suis un peu ennuyée après, du coup, à l'école primaire. Du coup, j'ai énormément lu tout ce qui me tombait sous la main. Donc chez mes parents, chez mes grands-parents, à la bibliothèque, toutes sortes de choses, des BD, aux romans, aux récits d'aventures, aux biographies, enfin voilà. Faut bien voir, c'était avant les réseaux sociaux, tout ça. Hein. Donc c'était une réponse à l'ennui, parfois. C'était une ouverture sur le monde. J'ai vraiment eu cette impression-là, de pouvoir voyager dans le temps avec des livres écrits à des moments différents. Et puis de voyager dans, finalement, me mettre à la place de plein de personnes dans plein de contextes différents. Donc une forme de liberté, ou même d'échapper finalement à l'endroit où on vit le moment présent, par la lecture.
Une lecture qui n'est pas nécessairement une lecture scientifique. La science viendra plus tard. La science viendra, vous l'avez dit déjà, grâce à un voisin archéologue, un ami de la famille qui vous éveille, des enseignants aussi. Alors c'est rare, hein, un enseignant de physique en première qui marque et qui éveille au goût de la science. Hélas, l'enseignement des matières scientifiques en France est souvent décrié, c'est dommage. Mais donc, voilà, il faut que vous le disiez parce que là, c'est suffisamment rare pour être remarqué.
Même au collège, j'ai souvenir en fait d'avoir travaillé en géologie sur le relief de la Lorraine, ce relief de côte un peu particulier, puis qui expliquait aussi pourquoi il y avait eu des gisements de charbon, des gisements de fer. Donc, donner sens en fait au paysage autour de nous par la compréhension de l'histoire géologique, je m'en souviens. Et puis après, effectivement, en première, c'est là où vraiment j'ai compris la force de la physique. C'est-à-dire la force de la physique en comprenant le mouvement, en comprenant la mécanique, en comprenant l'énergie, en comprenant le monde autour de soi. Mais ça va jusqu'à l'atmosphère et tout le reste. J'ai vraiment eu un sentiment d'émerveillement sur ce que c'était l'expérimentation, le raisonnement, l'utilisation de la physique pour donner sens au monde autour de soi. Un prof passionné, passionnant. Au lycée, j'hésitais en fait sur ce que je voulais faire après, et vraiment c'était une forme d'instinct de me dire j'ai envie de continuer vers les sciences.
Ça a été comme un déclic.
C'était comme une évidence.
Ah, une évidence. Le déclic, il vient quand même un petit... Non, il vient à ce moment-là, je pense, hein, au lycée, puisque c'est au CDI du lycée, vous tombez, alors par hasard, on pourrait dire que le déclic, il vient par hasard, en tombant sur un article de vulgarisation scientifique.
Oui, un magazine de vulgarisation scientifique qui avait en fait une couverture sur les sciences du climat. Je me souviens plus le détail, mais c'était la Terre, en fait. Et dedans, par contre, ça, je m'en souviens très bien, il y avait un focus sur l'observation de la Terre depuis l'espace, les satellites. Donc, milieu des années 80, en fait. Hein. Il y avait un focus sur les travaux pionniers de modélisation du climat. Climat actuel, climat passé. Et puis, il y avait un focus sur les carottes de glace, machine à remonter dans le temps. Et ça, je m'en souviens. Et ce magazine, je l'avais gardé tout le long de mes études. Et je m'en suis resservie quand j'étais en école d'ingénieur plus tard pour chercher, en fait, un contact dans des laboratoires en sciences du climat pour faire le stage de fin d'études.
Vous l'avez plus ?
Je pense qu'il est dans une sorte de coffre en métal où j'ai rangé des papiers il y a longtemps et que je n'ai pas rouvert depuis très longtemps.
Il faudrait peut-être aller le rechercher pour voir aujourd'hui comment vous regardez ce journal ou s'il disait des bêtises. Peut-être qu'aujourd'hui, avec les connaissances que vous avez, vous regarderiez avec un autre œil.
Bah non, parce que justement, quand on regarde l'histoire des sciences du climat, et c'est quelque chose qu'on a fait, par exemple, dans le 6e rapport du GIEC en 2021, on avait rappelé les dates clés de l'état des connaissances. On voit que les connaissances qui étaient déjà là à l'époque n'ont fait que s'affiner et se renforcer.
Et pas se contredire.
Exactement.
C'est à cette époque aussi, Valérie Masson-Delmotte, quand vous commencez à vous éveiller aux sciences du climat par ce journal, que vous lisez l'histoire du climat depuis l'an 1000 de Emmanuel Leroy-Ladurie.
Oui, ça je me souviens, c'était la bibliothèque près de chez moi. Peut-être un petit peu plus tard, j'ai du mal à voir, je pense pas que c'était
en seconde,
mais
en tout cas,
plutôt terminale ou un peu après. Je me souviens pas de la date de parution, en fait. J'avais adoré cet ouvrage, qui est le regard d'un historien sur, finalement, l'utilisation de sources historiques pour caractériser la variabilité récente du climat, et puis la réflexion sur les interactions entre les sociétés humaines et leur environnement. Et une des formidables archives du climat dont on dispose, notamment grâce aux travaux d'Emmanuel Leroy-Ladurie, et puis ceux qui ont poursuivi cet effort, c'est la connaissance des dates historiques de vendanges, qui sont un des marqueurs formidables, l'évolution de la température pendant la saison de croissance du raisin, chaque année, pour lequel on a des chroniques sur plusieurs siècles. Et j'avais notamment présenté en Bourgogne le fait que les chroniques des vins de Bourgogne, finalement, des dates de vendange, étaient rentrées dans les rapports du GIEC.
Donc vous vous dirigez assez naturellement, finalement, vers un bac C, c'était le bac scientifique de l'époque, une prépa scientifique à Nancy. Et puis, vous intégrez l'école centrale à Châtenay-Malabry, en banlieue parisienne. Ça a dû vous changer un peu.
C'était un peu, pour moi, un choc culturel. Donc d'abord, je suis partie assez tôt. J'étais jeune, en fait, quand je suis partie de ma Lorraine natale pour rentrer dans cette école. C'était un moment où j'ai aussi découvert d'autres personnes d'horizons différents, pour certaines venant de milieux assez privilégiés. Alors que quand j'étais en classe préparatoire en Lorraine, il y avait toute une diversité d'élèves, et notamment pas mal d'élèves qui venaient de régions rurales, des Vosges, de familles par exemple d'agriculteurs, qui étaient des très bons élèves, qui allaient en classe préparatoire avec beaucoup d'entraide, et puis pas la perception d'un côté privilégié. Ça, j'en ai un peu pris la mesure en arrivant en école d'ingénieur en région parisienne. Voilà des gens qui n'avaient pas les mêmes types de codes vestimentaires, qui n'avaient pas les mêmes manières de s'exprimer, qui n'avaient pas non plus les mêmes types de loisirs ou de vacances que j'avais pu avoir. Bah, ça demande de s'adapter. Alors, j'ai gommé une partie de mon accent lorrain. Je m'en rends compte parce que quand je retourne en Lorraine, j'ai une espèce de bouffée de nostalgie avec les personnes qui ont gardé certaines manières de s'exprimer.
Et Vous comprenez facilement votre accent, quoi.
Je le retrouve pas forcément, mais il y a un côté très chaleureux de retrouver les accents qui ont marqué l'enfance. Et pendant très longtemps, chaque fois que je disais « il est 8h20 » à mon mari, il riait. Donc maintenant, je dis « il est 8h20 », qui est le code en région parisienne. J'aime bien dire 20.
Mais vous vous sentiez différente ou on vous faisait sentir que vous étiez différente?
Non, c'était moi. Et puis avec quelque chose qui m'a marqué aussi tout au long de mon parcours, c'est mais maintenant je peux mettre les mots dessus, mais à l'époque je ne le savais pas, c'est aussi parfois ce sentiment d'imposteur qui est très présent, c'est-à-dire me dire est-ce que je suis vraiment à ma place, l'impression d'avoir réussi le concours d'entrée dans cette école un peu par chance, et donc souvent le sentiment de devoir faire beaucoup pour faire ce qui est attendu dans ce contexte-là.
Vous en sortez diplômée en 1993, mais entre-temps, vous connaissez des années endeuillées, puisque vous perdez votre petit frère brutalement. Vous aviez 19 ans, lui même pas 16, il est mort la veille de ses 16 ans, en 1991, mort d'une leucémie en 6 mois. La vie bascule.
C'est ça, c'était ma première année d'études à l'école centrale, et puis j'avais des rêves, hein. J'avais le rêve qu'il puisse venir me voir, qu'on fasse des choses ensemble, avec ce côté de entrer dans l'émancipation, finalement l'adolescence. Bon voilà, ça n'aura jamais lieu. J'ai été beaucoup accompagnée par les enseignants, par le personnel de l'école, par mes amis à l'époque, parce que c'était pas facile en fait de vivre ça et passer des examens par exemple, hein. Pas du tout facile. Donc ça, j'ai beaucoup apprécié le soutien que j'avais reçu. Et puis après, y a eu toute une phase. Je suis partie en stage à l'étranger, obligatoire, juste après en Allemagne. C'était pas évident. Mais ça a été aussi un gros moment d'introspection, notamment l'année suivante, sur finalement la chance que j'avais d'être en vie. Et puis sur ce que je voulais faire de cette chance. Et donc, une des réactions, ça a été de me dire, je vais creuser les choses qui m'intéressent vraiment. Et les choses qui m'intéressaient vraiment, c'était notamment les aspects liés aux sciences du climat. Et c'est comme ça que j'ai fait le choix d'aller vers un parcours en physique des fluides, énergétique, qui ouvrait cette possibilité-là dans le cadre de l'école où j'étais. Je suis allée aussi à l'époque suivre des cours, en séchant les cours d'école d'ingénieurs.
De philo.
De philo et puis aussi de sciences du climat sur Jussieu, à l'époque, qui pouvait être ouvert pour justement découvrir autre chose. Et c'est ça qui m'a motivée pour finalement faire le choix d'aller tester ce qu'était la recherche scientifique dans ce domaine-là que je ne connaissais pas.
Vous étiez partie pour être ingénieur central, ça mène plutôt à ça, à des carrières d'ingénierie.
Oui, puis d'ailleurs, je retrouve régulièrement des amis ou des camarades de promotion qui ont fait des parcours complètement différents. Et ce qui est intéressant pour certains d'entre eux qui sont extrêmement impliqués dans finalement le développement industriel ou technologique qui contribue à permettre de limiter le réchauffement. Donc on voit qu'il y a différents parcours qui amènent à finalement se retrouver parfois à différentes perspectives. Mais j'avais eu notamment des cours de préparation aux fonctions d'ingénieur à l'époque, qui mettaient beaucoup l'accent sur la rentabilité, qui mettaient en regard, par exemple, sur des gestions d'entreprise, le nombre de salariés, les bénéfices qui étaient faits. Et c'était des choses qui, pour moi, manquaient d'humanité, manquaient de sens. Et donc, je cherchais du sens à ce que je voulais faire. Et le sens, c'était pas comme aujourd'hui on pourrait le penser en sciences du climat, par rapport aux défis sociétaux, par rapport aux transformations de société. Pour moi, le sens, c'était un sujet qui me passionnait, où il y avait une recherche qui évoluait rapidement. Et le sens, c'était comprendre. Comprendre le fonctionnement du climat, des nuages, comprendre les variations passées. À l'époque, moi, c'est ça qui me motivait vraiment.
C'est un peu ça qui vous motive encore aujourd'hui, non?
Aujourd'hui, on a aussi cette évidence très claire de l'influence des activités humaines sur le climat, qui était déjà connue à l'époque, hein, et ce défi particulièrement important d'aller chercher des connaissances des sciences du climat qui peuvent aussi venir en appui de la réponse de la société, fournir des informations en appui à la maîtrise du réchauffement, fournir des connaissances en appui à l'adaptation, à la gestion de risque. Donc on voit que ça prend d'autres ramifications et qui demande de s'appuyer sur pas uniquement les sciences du climat, mais tout un ensemble de disciplines, ce qui est extrêmement stimulant aussi.
Oui, ce qui vous plaisait déjà, Valérie Masson-Delmotte, à l'époque, c'est-à-dire cette interdisciplinarité, peut-être même une transdisciplinarité, ça on y reviendra, mais qui vous fait aussi, vous le disiez, aller de la mécanique des fluides aux sciences du climat, en passant donc par la philosophie, des cours de philosophie en parallèle de vos études scientifiques. Là aussi, parce que vous cherchiez du sens, vous vouliez comprendre des choses à cette époque-là en particulier.
Oui, et je m'intéressais notamment à la philosophie des sciences, par exemple. Donc il y avait une certaine cohérence sur réfléchir à la place des sciences dans la société plus généralement, avec une interrogation, avec un côté réflexif, pas simplement à vocation plus opérationnelle, comme on pourrait le faire sur de la recherche appliquée ou sur de l'ingénierie. C'est cette réflexion qui m'intéressait.
Est-ce que vous diriez que à cette époque-là encore, hein, vous vous êtes réfugié dans les études?
Les études, l'amitié, et puis aussi le judo à l'époque, hein, le sport.
Et c'est vrai, on n'a pas encore parlé du judo.
Voilà.
Vous avez fait du judo beaucoup.
Oui, et c'est quelque chose que j'avais démarré au lycée, que j'ai beaucoup aimé, et puis que j'ai poursuivi quand j'étais étudiante d'ailleurs, où j'ai rencontré des amis. C'était quelque chose qui a contribué à mon équilibre à l'époque.
Qu'est-ce qu'on apprend au judo?
Le respect de l'adversaire. On apprend l'équilibre, une forme d'équilibre et de déséquilibre. On apprend aussi à se déplacer avec des entraînements techniques ou des combats. On apprend aussi à utiliser la force de l'autre pour soi. Et donc c'est un mélange en fait de coopération et de compétition qui est intéressant.
Ça vous a servi par la suite?
Peut-être.
Vous en êtes rendu compte ou vous l'êtes dit ou là quand vous dites peut-être?
Alors que... oui, je pense qu'il y a plein de choses dont je me suis servie et je ne m'en suis rendu compte qu'il y a quelques temps quand j'avais répondu à une interview pour un magazine de judo avec un ancien sportif.
Vous répondez à toutes sortes de magazines.
Oui. Qui m'avait du coup amené à m'interroger sur ce que j'avais appris. J'avais appris des choses avec le premier enseignant de judo qui était un enseignant à l'ancienne, avec le volet de maîtrise de soi ancré dans la culture asiatique. C'est aussi une ouverture au monde, hein, puisqu'il y a cet ancrage dans d'autres cultures. C'est aussi tout un exercice de maîtrise de soi. Et donc maintenant que j'ai vieilli, j'ai fait du judo, j'ai fait du tennis, et maintenant je fais du yoga. Et ce qui est intéressant, c'est que sur la pratique du yoga, je retrouve en fait des choses qui venaient aussi dans certaines approches liées à la pratique du judo.
Vous avez arrêté le judo pour quelle raison ?
Quand j'ai eu ma première fille, après, donc j'ai été allongée pendant 6 mois suite à des problèmes pendant la grossesse. Et après, j'avais plus envie de combat. C'est étrange, hein. J'avais plus d'appétence pour cela.
Voilà, revenons à cette époque où vous en faisiez du judo. Donc cette époque où vous étiez à Centrale et où vous en sortez. Vous vous dirigez vers une thèse, puisque vous avez choisi de faire de la recherche scientifique. Vous vous dirigez vers une thèse sous la direction de Sylvie Joussaume. Alors, je préfère que ce soit vous qui nous donniez l'intitulé de votre thèse, si vous vous en souvenez. Et si vous ne vous souvenez pas de l'intitulé, de toute façon, on peut le trouver. Je l'avais trouvé. Mais peut-être nous dire sur quoi vous avez travaillé.
Alors, le titre devait être « Simulation du climat de l'Holocène moyen, impact des paramétrisations », je pense, à l'aide de modèles de circulation tridimensionnelle de l'atmosphère, peut-être.
Alors,
chaque fois que je le dis, ça me fait penser à un film où il y avait un sujet de thèse sur les chevaliers paysans en l'an 1000 au lac de Paladru.
Absolument.
Quand j'avais vu ce film, j'avais ri et après j'ai réalisé que oui, il y avait eu des chevaliers paysans en l'an 1000 au lac de Paladru et en fait que c'est passionnant ce qu'on en apprend. Donc c'est la même chose. Donc l'Holocène moyen, c'est le climat de la période, on va dire, interglaciaire actuelle, l'Holocène, les derniers 11 700 ans. Et l'Holocène moyen, c'est il y a environ 6000 ans, au milieu de cette période. Donc, la période relativement stable avant que l'humain fasse irruption à grande échelle et soit responsable du changement climatique actuel. Et à cette époque-là, la trajectoire de la Terre autour du Soleil était un petit peu différente du fait des variations de l'orbite et de la position des saisons sur cette orbite, ce qu'on appelle la théorie astronomique des climats passés. Et cela entraînait notamment des mécanismes de mousson dans les régions tropicales plus intenses. Et cela a laissé beaucoup de vestiges, notamment des gravures rupestres dans les grottes du sud du Sahara, ou bien des restes de lacs, des vestiges, des fossiles, qui témoignaient d'une période qu'on a parfois appelée le Sahara vert, et dont on voit bien qu'elle peut être fascinante, par rapport au contraste entre une faune liée à des marécages humides, des hippopotames et le reste, et aujourd'hui des conditions semi-désertiques.
Waouh, c'était passionnant. Et combien de temps ça vous a pris ?
En fait, c'était dans le cadre d'un projet européen sur la modélisation des climats passés. Donc, c'est 3 ans, une thèse en sciences dures, on va dire, hein, sciences naturelles. L'idée, c'était, à partir de synthèses de données des caractéristiques climatiques passées de l'époque, issues d'analyses d'archives naturelles, confrontées à ces reconstitutions, le résultat des modèles de climat développés pour le climat actuel, utilisés pour les évolutions futures, pour tester leur capacité à simuler ces variations passées, un point clé pour la confiance par rapport aux projections futures, comprendre les mécanismes de la réponse du climat à cette perturbation naturelle qu'on connaît bien, et puis donner sens aux variations climatiques passées en comprenant les raisons de ces variations.
C'est dans ce cadre-là, Valérie Masson-Delmotte, que vous rencontrez pour un stage de fin d'études le climatologue Jean Jouzel.
J'ai cherché délibérément à pouvoir être accueillie dans un laboratoire pour un stage de DEA, Master 2, et avec la possibilité de continuer en thèse avec un financement. Parce que dans l'école d'ingénieurs où j'étais, et le DEA que j'avais fait, il n'y avait pas de possibilité de financement ouvert. Et donc c'est comme ça que je suis arrivée, j'ai contacté des collègues dans différents laboratoires, des collègues maintenant, mais à l'époque, des chercheurs. Et c'est au CEA qu'il y avait une possibilité éventuellement de candidater pour une bourse de thèse, ce qui était une opportunité vraiment intéressante. Donc j'ai rencontré Jean Jouzel, qui m'a orientée vers Sylvie Joussaume, qui m'a accueillie en stage et ensuite en thèse.
Que représentait, que faisait Jean Jouzel quand vous le rencontrez? On est dans les années 90. Très connu. Hein.
Voilà, c'était un scientifique très reconnu, notamment par l'apport de l'analyse des carottages en Antarctique, le projet Vostok, sur les variations passées du climat, de la composition en gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Alors, je connaissais pas tous ses travaux. Et puis, il était à l'époque dans l'équipe de direction de ce laboratoire. Il avait à l'époque un sujet de thèse pour travailler avec lui sur les carottages dans les glaces, mais il l'avait déjà promis à un jeune homme qui était à l'époque, faisait son service militaire. Bon, il se trouve que ce jeune homme, c'est maintenant mon mari, depuis 25 ans. Et donc, du coup, c'est comme ça qu'il m'a orientée sur Sylvie Joussaume, qui m'a accueillie dans un laboratoire qui avait été créé depuis peu de temps, avec beaucoup de jeunes scientifiques, un côté extrêmement vivant, stimulant, par le fait d'avoir des recrutements de quelques dizaines de personnes, beaucoup de doctorants, et donc un état d'esprit assez formidable.
Et cet état d'esprit, peut-être le retrouvez-vous quand vous rejoignez le CEA avec Jean Jouzel pour travailler avec lui sur ces fameuses carottes de glace dans l'Antarctique et au Groenland. Vous parliez du projet Vostok. Eh bien, ce sera le sujet de notre épisode 2 demain, des carottes dans la glace. Merci Valérie Masson-Delmotte.
Merci.
C'était À Voix Nue avec Valérie Masson-Delmotte, réalisation Félix Levacher, prise de son Thomas Robin, chargée de programme À Voix Nue Daphné Abgral. Une série de Caroline Brault est disponible sur le site de France Culture et l'application Radio France.